Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bories.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Si vous nous écoutez en Afrique, il est fort possible que vous le fassiez avec un appareil qui vous serve à la fois de téléphone portable, de radio, mais aussi de porte-monnaie, voire de terminal bancaire, que vous puissiez payer ou recevoir de l'argent grâce à ce petit condensé de technologie. Après bien d'autres secteurs, les nouvelles technologies de l'information sont en train de révolutionner le monde de la banque, des banques d'un nouveau genre, compagnies téléphoniques ou entreprises financières technologiques, les fintechs comme on dit, viennent concurrencer les établissements bancaires traditionnels et parfois ceux-ci créent ou rachètent ces entreprises innovantes. D'où quelques questions. Quelle est l'importance de ces nouveaux modes de bancarisation? Sont-ils une menace pour les banques traditionnelles? Permettent-ils l'intégration à l'économie formelle de nouveaux acteurs économiques et contribuent-ils vraiment à la création de richesses? Question que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Marianne Barbalayani.
Bonjour.
Marianne Barbalayani, vous êtes la directrice générale de la Fédération bancaire française. Qui cette fédération regroupe-t-elle et quel est le rôle de cette fédération ?
Cette fédération est la fédération professionnelle de toutes les banques sur le territoire français. On représente 364 banques, 370 000 salariés sur le territoire et les banques sont un des six grands atouts de l'économie française selon l'OCDE.
Et quel est le rôle de cette fédération ?
Comme toutes les fédérations professionnelles, en fait, notre rôle est double. Il s'agit de faire émerger des consensus entre nos adhérents et de défendre leurs intérêts devant les multiples pouvoirs publics qui s'occupent du secteur bancaire au niveau international, européen et français.
Alors on verra au cours de l'émission quelle position vous défendez, mais avec nous dans ce studio également Marc Renard. Bonjour Marc Renard.
Bonjour.
Marc Renard, vous avez longtemps, très longtemps été le monsieur Afrique d'Orange, l'opérateur téléphonique. Vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint de cette société en charge de l'expérience client et des services financiers sur mobile. C'est un peu jargonnant comme titre. Qu'est-ce que c'est exactement que cette responsabilité ?
Écoutez, j'ai deux responsabilités assez distinctes dans notre groupe désormais. L'une, c'est de piloter l'ensemble de l'expérience client, faire en sorte qu'Orange, partout dans le monde, soit meilleur que ses concurrents. C'est un premier volet. Puis le deuxième volet, c'est de piloter ce qu'on appelle les services financiers, c'est-à-dire Orange Money en Afrique et au Moyen-Orient, donc les services de paiement, de transfert d'argent. Et puis en France et en Europe, nos projets bancaires sur lesquels vous m'interrogerez sans doute.
Certainement, mais je termine ce tour de table avant de vous interroger par vous, Murtaza Azatied. Bonjour.
Bonjour.
Murtaza Azatied, vous êtes le directeur général d'une jeune société qui s'appelle Yomoni et qui a été créée à partir d'un constat, c'est ce qu'on lit sur le site internet de votre entreprise. L'argent des Français ne leur rapporte pas autant qu'il le pourrait. La suite de l'histoire, c'est quoi ?
Ben, la suite de l'histoire, c'est que on voit historiquement que l'offre financière est essentiellement dans les banques et que le résultat sur le patrimoine des Français est qu'ils sont obligés d'épargner beaucoup plus puisque ça leur rapporte pas grand-chose. Quand on constate pourquoi ça leur rapporte pas grand-chose, il y a plein de facteurs. Un premier facteur sont les frais. La deuxième facteur, c'est la complexité de la réglementation sur les produits. Et le troisième facteur, c'est cette un peu prise en main de l'épargne financière par les Français eux-mêmes. Et là-dessus, on essaie justement de faire beaucoup de pédagogie et d'accompagner les Français sur l'épargne de long terme, qui peut prendre plus de risques, pour être très précis, et donc avoir plus d'actions et un peu moins de livret A, plus d'obligations de long terme et un peu moins de fonds en euros.
Au cours de cette émission des reportages, évidemment, nous irons au Kenya avec Laure Broulard, en Inde avec Sébastien Farcy. Cela sera dans la deuxième partie de l'émission et dans la première partie, un reportage signé Ariane Gaffuri, ici à Paris. Marc Renard, Orange doit lancer son service bancaire français dans très peu de temps, dans quelques jours exactement. Vous y avez déjà fait allusion dans la première partie de l'émission. De quoi s'agit-il exactement ?
Bien, je ne vais pas vous dévoiler ce que nous allons faire en France au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Il ne s'agit probablement pas des prochains jours. Donc nous allons lancer une offre de services financiers sur mobile.
Donc ça, c'est déjà une information, parce que ça devait être présenté la semaine prochaine.
Pas du tout, je ne sais pas d'où vous tenez cette information. On a toujours dit qu'on lancerait d'ici l'été. Donc d'ici l'été, c'est entre le mois de juin et le mois de septembre. On sera au rendez-vous, on est en train de développer notre offre. C'est une offre d'une banque sur mobile. Et permettez-moi, comme le fait d'autres concurrents, comme le fait parfois Apple, de réserver un tout petit peu de surprise. On annoncera dans quelques jours le contenu de cette offre qui se déclinera, qui sera ouvert au grand public dans quelques semaines ou quelques mois, en tous les cas d'ici l'été.
Donc on aura droit à une grande campagne de communication, de publicité ?
On aura droit à une campagne de communication adaptée à nos objectifs. Grande, je vous laisse la qualifier.
Mais est-ce que ça sera une banque en ligne ?
Ce sera totalement une banque digitale, disponible d'abord sur les smartphones des consommateurs. Et bien sûr, vous pouvez la qualifier de banque en ligne. On espère pouvoir apporter un certain nombre d'innovations, qui tarifaires, qui marketing. Mais encore une fois, je ne vais pas vous parler de cette offre-là.
Et vous avez l'ambition de prendre quel pourcentage du marché ?
On a annoncé qu'on visait à terme 2 millions de clients en France, et puis on a d'autres objectifs dans d'autres pays d'Europe, de la même façon qu'on a des objectifs importants en Afrique avec notre produit Orange Money.
Bon, Tassassassiad, l'irruption d'un nouvel acteur du genre d'Orange, pour vous, c'est une date importante sur le marché bancaire hexagonal européen ?
Oui. Oui, c'est très important. Là, on verra ce qui sera lancé et quelle est l'attendue des services. Nous, on a une approche très, très différente. C'est-à-dire que nous, on a lancé notre service en 2015 et on a donc pas 2 millions de clients, mais 3 000 clients et on est à peu près 20 personnes. Et l'idée, c'est plutôt d'être spécialiste dans notre secteur. On est également en ligne, complètement disponible de façon numérique pour la souscription et on fait que de la gestion d'épargne. Et c'est un peu une des grandes constatation qu'on a faite quand on a lancé ce service, c'est que l'offre aujourd'hui, elle est trop large. C'est-à-dire que les banques font tout. Elles font de l'assurance, elles font du téléphone portable, elles font du prêt, elles font du compte courant et elles font de l'épargne.
Et de l'assurance.
Voilà, elles font vraiment de tout. Le constat, alors on va un peu titiller les participants ici, c'est qu'au final, elles le font pas très bien. Et donc, on va voir ce que fait Orange, mais nous, on a une spécialisation très claire pour justement être les meilleurs dans ce segment-là.
Mais la question que je vous posais, c'est est-ce que l'irruption d'Orange, c'est un basculement dans le monde bancaire, selon vous, qui favorise peut-être à terme votre propre entreprise ?
Ça, on verra, et ça dépend exactement de quelle est la plateforme d'Orange, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont repris la banque et ils l'ont mis en ligne, et donc ils n'ont rien inventé puisque les banques en ligne existent déjà, ou alors il y a vraiment une dimension innovante, quitte à agréger des services autres, externes, et là, effectivement, ce serait une opportunité de développement. Donc ça, un peu la balle est dans le camp d'Orange. En termes de date ou de mutation, c'est un peu le sens de l'histoire. C'est de toute façon, il y allait avoir des nouveaux entrants sur le marché qui ne seraient pas des acteurs historiques. On voit, bon, il y a des grands distributeurs qui se mettent à faire de la banque, des opérateurs télécoms, donc c'est plutôt le sens de l'histoire, et effectivement là on accélère ce sens de l'histoire-là.
Marc Renard, vous n'inventez rien, vous allez inventer ?
Ce sera à vous de qualifier ce qu'on va faire, mais vous savez, le fait que des opérateurs télécoms se développent dans les services financiers, ça date pas d'aujourd'hui déjà chez Orange, puisque nous avons 30 millions de clients Orange Money en Afrique.
Mais en France, c'est une innovation.
En France, c'est une innovation, encore que ça fait maintenant plusieurs années que nous avons un produit de paiement sans contact, Orange Cash, disponible sur Android et sur les téléphones de type Apple, sur les iPhones, et qui permet de payer dans la plupart des commerces en France. Donc c'est une extension à des choses qu'on fait déjà. C'est un élargissement, c'est, je l'espère, un peu d'innovation tarifaire et marketing. On verra bien dans quelques semaines.
Alors Marianne Barbalayani, beaucoup de balles dans votre camp. Là, pour vous, Orange, son arrivée sur le marché bancaire français, c'est quelque chose d'important ? C'est une date ?
Alors,
ça sera une date ?
C'est à Orange de relever le challenge. À nous, on est la fédération, on les représentera comme tous nos autres adhérents d'ailleurs. Je crois que c'est surtout un bon signe en termes de dynamisme du secteur, parce que au fond, on voit que c'est un secteur qui continue à attirer, qui attire des nouveaux entrants, à la fois des nouveaux entrants généralistes. Donc effectivement, ça sera probablement, même si j'ai pas d'informations sur ce que sera le contenu de l'offre d'Orange Bank, je pense que ça sera une offre assez large, j'imagine, et des nouveaux entrants plus spécialisés, comme Yomoni, qu'on connaît bien à la Fédération bancaire française, puisqu'ils avaient
Yomoni, c'est Murtaza Azadsiad vers le lequel vous vous tournez.
Oui, tout à fait. On se connaît un petit peu puisqu'on est très évidemment actif en matière d'innovation dans le secteur bancaire, hein, que ce soit d'ailleurs ce que vous appeliez les banques traditionnelles, qui sont en fait aujourd'hui elles-mêmes des acteurs digitaux et des fintech. 80% des gens consultent leur compte bancaire aujourd'hui sur l'appli de leur banque. Et les applis des banques sont aujourd'hui les troisièmes plus consultées parmi les applis des téléphones mobiles. Donc je veux dire, on est déjà dans un monde digital. D'ailleurs, quand on parle de fintech, moi j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi on opposerait finalement ce qu'on appelle les nouveaux entrants fintech, qui soient généralistes ou qui soient spécialisés comme Youmoney, et les banques qui sont elles-mêmes complètement dans le monde digital. Moi, j'ai des adhérents qui sont d'ailleurs aujourd'hui déjà, certains sont des banques purement digitales. Tous mes adhérents banques généralistes sont sur les iPhones, sont des banques internet, digitales, multicanales. Donc, on n'a pas, je dirais, deux mondes qui s'opposent. Et pour revenir sur Youmoney, effectivement, ils avaient reçu le prix de l'innovation de la revue Banque il y a 2 ans.
Donc, mais Youmoney, par la bouche de M. Assatiade, vous dit que les banques font tout, trop et pas bien, qui trop embrasse mal étreint, c'est un peu le sens de ce
qu'ils
disent.
Mais ça, c'est pas la position des clients, parce que 78% des clients français sont satisfaits de leur banque, hein, selon les études BVA. La banque française, elle se caractérise dans son modèle. Il y a beaucoup de diversité, hein, disons, dans le modèle général, qui est le modèle de la banque universelle de proximité, effectivement par une relation qui répond à beaucoup de besoins du client en même temps. Le compte bancaire, les crédits, l'assurance, l'épargne, les placements d'épargne, etc. Donc, c'est une offre qui est généraliste, qui est assez appréciée des clients, d'après toutes les études qui sont faites. Bon, maintenant, il faut, comme toujours, continuer à innover, intégrer les nouveaux services, les nouveaux modes de relation client. Et ça, je veux dire, c'est ce que font toutes les banques existantes et c'est ce que font les nouveaux entrants.
Alors, l'un des exemples les plus emblématiques de cette innovation dont vous parlez en France, c'est le compte Nickel. Il a été lancé il y a 5 ans. Il compte aujourd'hui 556 000 utilisateurs. C'est un compte en banque sans banque, accessible à tous à partir de l'âge de 12 ans dans l'un des 2500 bureaux de tabac agréés. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Ariane Cafuri dans les rues de Paris.
Bonjour, un Lucky en 25, s'il vous plaît.
Et voilà,
merci.
Bonne journée.
Ils vont ouvrir 2 comptes Nickel.
Les 20 par personne. Donc les 20 euros, c'est le prix de la carte pour l'année. Je vous laisse aller sur la bande, commencez à remplir les informations.
Mouloud a adopté le compte Nickel et le conseille même à ses amis.
C'est très très bien le compte Nickel. Quand on veut faire des économies, on met tout dans le Nickel. Il y a moins de frais bancaires. C'est génial.
Amique. Pourquoi vous ouvrez un compte Nickel aujourd'hui?
Parce que maintenant, tout se fait par Internet. Par Internet, justement, on peut faire des paiements, retraits. Et le reste, je passe par mon compte habituel. Quoi.
Amique, là, vous êtes en train de créer votre compte Nickel, hein, sur une borne, la borne Nickel.
C'est ça, tout à fait. On va scanner la carte d'identité.
Et vous n'avez pas de justificatif d'adresse à donner, en fait?
Regardez comment ça va vite pour ouvrir un compte. Alors qu'en banque, il faut ramener des justificatifs, d'hébergement, de loyer. Fermé, validé.
Élégant dans son costume cravate, Franck s'est détourné des banques classiques.
J'ai été déçu par moi, ma propre banque est classique, et là, pour l'instant, je suis pas déçu. Banque classique, ça veut dire les frais par mois, le prix de la carte qui devient exorbitant. Par exemple, sur un virement, des frais qui peuvent monter jusqu'à 10, 20 euros. Enfin, plein de choses comme ça.
Un compte accessible à tous, sans condition, c'était l'objectif du fondateur, Hugues Lebray.
On voulait au départ réparer une injustice, c'est-à-dire que l'exclusion bancaire. Il y a 3 millions de personnes, d'après la Banque de France, qui sont en fragilité financière, 6 millions d'après les ONG. Et donc on voulait qu'ils aient une solution toute simple, en 5 minutes chez le buraliste, sans condition de revenus, sans condition de patrimoine, y compris si on est exclu. Donc on a fait un système où pour 20 euros, on ouvre son compte chez le buraliste, on a un relevé d'identité bancaire, on a une Mastercard internationale. Tout ce qui est électronique est gratuit et tout ce qui est à l'acte, tout ce qui est manipulation de cash, demande des interventions et donc a une petite facturation. Donc en moyenne, les clients compte Nickel ont payé 46 euros de frais en 2016, c'est-à-dire 20 euros l'abonnement annuel, plus 26 euros de petites commissions à l'acte, comme je viens de dire.
200.
Pas de chèque, pas de crédit, surtout pas de découvert possible. C'est cela qui a intéressé Manuel, ferrailleur et interdit bancaire.
Ça veut dire que si je n'ai pas l'argent dedans, je ne peux pas retirer. Donc je n'ai pas de découvert, je suis tranquille. Je ne peux pas rentrer dans les découverts pour que je tombe dans la merde. C'est à cause de ça que moi, ça m'intéresse.
Voilà. Pour ce buraliste de Maison Alfort, dans la banlieue est de Paris, le compte nickel est une activité supplémentaire bien appréciable. Philippe Alloz.
Le monde du tabac a été toujours attaqué. On a un paquet neutre qui est arrivé. On perd des clients. Et il faut impérativement qu'on aille trouver d'autres produits qui puissent nous faire rentrer des clients. Et le compte nickel en a été le premier exemple ces 5 dernières années. Voilà.
Le compte nickel va être racheté par BNP Paribas. Objectif, se développer auprès de 10 000 buralistes et acquérir 2 millions de clients tout en restant autonome.
Merci. Bonne journée, bonjour.
556 000 utilisateurs pour ce compte nickel dans ce reportage d'Ariane Gaffuri. Je vous voyais réagir, Marianne Barbalayani, dubitative sur ce qui se disait dans ce reportage.
Non, pas du tout. Je trouve que c'est une belle histoire, hein, le compte nickel. Et, bon, c'est aussi un acteur spécialisé, puisque c'est un acteur qui offre un compte de paiement, en fait. Hein, Mais je réagissais à une chose qui m'a un tout petit peu interpellée, qui était pas de justificatif de domicile. Ça me paraît un peu étrange, parce que, comme vous le savez, l'ensemble des acteurs financiers font partie du système de prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. On a énormément d'obligations de ce point de vue-là. C'est pour ça que votre banque va vous demander une pièce d'identité à jour, des justificatifs de domicile, de revenus,
etc. C'est ce qui était dit plus tard dans mon portail.
Voilà. Et donc, ça me paraît très étrange qu'il n'y ait pas de demande de justificatif à cette occasion. Je pense que ce n'est pas le cas en réalité.
Bon, ça tient.
En fait, dans le compte nickel, il n'y a pas de justificatif de domicile à présenter. Par contre, il y a un process via la réception d'une lettre commandée qui valide en fait le domicile. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que l'innovation, c'est pas juste de l'informatique ou un réseau ou un iPhone. C'est également l'innovation réglementaire, la façon dont on se met à la place du client et on comprend les points qui sont pénibles. On n'est pas avec son justificatif de domicile sur soi quand on se balade dans la rue. Et donc de repenser, en fait, d'innover sur des points qui ne sont pas forcément informatiques.
Marc Renard, le compte nickel, c'est une expérience que vous avez regardée pour lancer votre banque Orange ?
Oui, nous l'avions regardé. Je suis moi-même utilisateur du compte nickel, un utilisateur satisfait. Mais je dois vous dire également que nous avons nous-mêmes, depuis longtemps, en France, un système qui a autant de clients pratiquement que le compte nickel, qui s'appelle Orange Cash, qui est un système de paiement sans contact, disponible sur Android et sur iPhone depuis l'automne.
Et c'est un service comme le compte nickel qui s'adresse à des gens désargentés qui ont peu de moyens ou qui sont interdits bancaires.
Je crois que Monsieur Lebret n'apprécierait pas votre présentation. Et son public n'est pas simplement des gens désargentés et sans moyens.
Je faisais allusion à Orange.
Non, pour nous, vous pouvez vous-même, comme je l'ai fait moi-même, charger Orange Cash sur votre navigateur. Si vous avez un iPhone ou un Android, vous avez un compte en mode prépayé, comme le compte nickel, et vous avez la génération d'une carte bancaire virtuelle, utilisable une fois et un jour, pour des raisons de sécurité, qui est notre focus absolu. Donc le compte nickel a son utilité, c'est un compte en prépayé, ce n'est pas une banque. De la même façon qu'Orange Cash n'est pas une banque, Orange Bank sera une banque. Il y a des différences. Moi, je rejoins ce que disait Marianne tout à l'heure, à savoir qu'on doit tous être respectueux de la réglementation et le compte nickel nécessite une pièce d'identité et nécessite une validation du domicile, comme pour Orange Cash et comme le feront les banques. C'est la réglementation.
Est-ce que c'est des banques low cost, ces banques que créent les fintechs comme Yomoni?
Alors nous ne sommes pas banques, hein. Oui. Nous on est une société de gestion, donc on gère l'épargne des gens et on leur confie un mandat de gestion et on gère vraiment sur le long terme leur épargne. On pourra y revenir plus tard. Je ne pense pas que ce soit le low cost. C'est un peu comme des nouvelles compagnies aériennes qui finalement volaient sur des avions plus récents, neufs, avec un service de qualité. Et au final, leur organisation permettait d'avoir des tarifs moins chers. Donc c'est juste, je pense, des services financiers en mieux. Après, on peut revenir sur le service financier existant. Moi, je voudrais quand même rendre justice au secteur financier ou aux banques. C'est historiquement, les banques étaient toujours à la pointe de l'innovation. Et un peu comme les télécoms. Et à un certain moment, l'innovation ne sort plus au service du client. Parce que finalement, la concurrence le force pas. Mais beaucoup d'innovations ont été faites chez des grands opérateurs historiques télécoms, par exemple. Mais elles ont été sorties pour le client uniquement quand un nouvel entrant est arrivé et les a forcées. C'est un petit peu ce qui se passe dans les banques. Moi, je suis moi-même ancien banquier. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites dans les banques, mais qui ne sont pas aujourd'hui au service du client. Et c'est pour ça que Hugues Lebret et Compte Nickel, qui lui-même est dans l'ancien banquier, je pense, fournit un service qui n'a rien à voir avec du low cost, mais un meilleur service. service.
Alors on poursuivra cette conversation dans quelques minutes après un flash d'actualité, puisque nous sommes arrivés au terme de la première partie de cet écho d'ici écho d'ailleurs. Restez à l'écoute, à tout de suite. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici écho d'ailleurs consacré au nouveau mode de bancarisation. Trois invités dans cette émission, Murtaza Satsied, directeur général de la fintech Yomoni, Marianne Barbalayani, directrice générale de la Fédération bancaire française, et Marc Renard, directeur général adjoint d'Orange, en charge des services financiers sur mobile. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons vu ou tenté de voir quels étaient les projets de l'opérateur Orange, puisque Marc Renard, vous n'avez pas lâché grand-chose. Nous avons aussi vu le rachat du compte Nickel par la banque BNP Paribas et à quoi servait ce compte Nickel. Et nous avons commencé à comparer ce nouveau mode de bancarisation aux anciens, à ce que j'appelle les banques traditionnelles. On n'a peut-être pas fait le tour de toutes ces innovations qu'on trouve sur le marché bancaire. C'est le moment de parler un peu plus de ce que vous apportez, vous, Murtaza Satsied, avec votre fintech Yomoni. Si j'ai bien compris, vous avez pris un petit pan de l'activité bancaire pour le développer avec de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, c'est ça ?
Alors, on a effectivement pris un pan de l'activité financière qui concerne l'épargne financière, l'épargne de long terme, la gestion patrimoniale qui est souvent réservée dans les banques privées, et on l'a mis disponible à partir de 1000 euros et surtout disponible en ligne, donc pour une souscription en 15 minutes. Donc il y a un aspect tarifaire, mais aussi de simplicité, d'ergonomie et d'accès. Sur la partie technologique, on se vante pas sur l'intelligence artificielle ou d'autres choses. C'est un peu un mélange. C'est un mélange d'innovation. Alors justement, on a parlé d'innovation réglementaire. Ben, par exemple, on a mis en place la signature électronique. On était parmi les premiers à mettre en place la signature électronique, qui est de souscrire un contrat d'assurance vie géré avec votre téléphone portable et avec un SMS.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de papier.
Il n'y a plus besoin de déplacement. Il n'y a plus besoin de rendez-vous. Il n'y a plus besoin de papier. Et vous avez toute l'information. Et vous avez même un conseiller qui est en ligne, un conseiller physique, humain, que vous pouvez appeler, avec qui vous pouvez discuter, si vous voulez, directement en ligne. Donc on a innové sur la partie ergonomie. Ensuite, on a innové sur la partie économique et financière, c'est-à-dire qu'on gère l'argent, ou en tout cas le patrimoine, comme si on était des institutionnels, avec des fonds indiciels. Donc c'est plutôt des instruments qui étaient réservés à la gestion institutionnelle de très grands comptes et qui n'étaient pas disponibles au grand public.
C'est une démocratisation.
C'est une démocratisation, mais au-delà de la démocratisation, c'est un gain d'efficacité. C'est-à-dire que au lieu on a réduit les frais que payait un épargnant par deux. Donc globalement, pour gérer votre épargne sur le long terme, typiquement avec des actions, un portefeuille très diversifié, ça coûte à peu près 3% par an aux Français. Nous, on a divisé ce coût par deux. Donc c'est pas seulement de la démocratisation, c'est aussi que quand on paye moins de frais, on a plus de performance. Ça c'est un fait, c'est un fait établi. C'est-à-dire que c'est plus pas possible de payer des frais qui n'impactent pas votre performance. Donc moins vous en payez, bah, plus forcément il vous en reste.
Marianne Barbalayani, c'est un danger pour les banques traditionnelles, ce genre d'entreprise, de fintech ?
Je pense que les banques n'ont pas peur de la concurrence. Hein. Encore une fois, c'est un secteur qui est déjà aujourd'hui extraordinairement concurrentiel, donc qui a l'habitude de se battre, y compris sur les tarifs. On le voit très bien en France sur un indicateur qui est très simple, c'est le crédit immobilier. Tout le crédit d'ailleurs est moins cher en France que dans tous les autres pays de la zone euro, c'est un fait avéré. Les Français savent très bien qu'ils peuvent faire jouer la concurrence entre leurs banques sur le crédit. C'est sans doute ce sur quoi ils agissent le plus, hein, sur lequel ils vont faire le plus jouer la concurrence. Mais ils le font aussi de plus en plus sur les frais bancaires, parce que c'est aussi un secteur qui est extraordinairement transparent. C'est un secteur dans lequel tous les tarifs sont affichés. Aucun changement de tarif ne peut intervenir si le client n'a pas été prévenu au moins 2 mois à l'avance. Donc, je dirais, est-ce que les banques ont peur ? Les banques sont, je dirais, dans la concurrence entre elles depuis très longtemps. Il y a de nouveaux entrants. C'est plutôt vu comme une opportunité par le secteur, parce que je crois qu'il y a un élément clé de l'ADN bancaire qui a été évoqué tout à l'heure, qui est l'innovation. C'est vrai que si les banques françaises sont solides, si elles sont ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un des 6 grands atouts de l'économie française, c'est parce qu'elles ont su innover, elles ont su se diversifier, elles ont traversé la crise, elles sont aujourd'hui très solides. Tout ça, ça montre qu'elles ont su s'adapter au fil du temps, et probablement parce qu'elles avaient déjà cet ADN d'innovation et parce qu'elles ont, je dirais, cette obligation impérieuse d'être proche de leurs clients. Ce sont des banques de proximité, donc elles ont cette proximité historiquement par le réseau, mais elles l'ont aujourd'hui par le digital.
Mais ce réseau, il est en voie d'extinction, vous savez.
Rien qu'aujourd'hui,
le journal Les Échos, par exemple, publie une étude, je crois, de l'association bancaire, qui évoque des milliers de suppressions d'emplois à venir dans le secteur bancaire.
Alors attention, je pense qu'il faut être assez clair sur ces sujets. D'abord, le réseau n'est pas en voie d'extinction. Il y a 37 500 agences bancaires aujourd'hui en France. C'est une forte densité. Il faut voir qu'on est dans un univers qui évolue très vite. C'est d'ailleurs effectivement le sens de l'étude à laquelle vous faites référence, qui a été une étude paritaire menée par les syndicats et les représentants des établissements bancaires de la branche AFB, Association française des banques, parce que justement, face à un univers où il y a une accélération de l'accélération, je dirais de la transformation numérique, elle est déjà en cours dans les banques, mais il y avait tout un questionnement sur, au fond, comment est-ce que le secteur va évoluer dans les années à venir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse absolument évidente. L'étude dont vous parlez, elle résonne par scénario, ce qui est à peu près la seule chose qu'on peut faire sérieusement aujourd'hui sur ces sujets. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte évolution du type d'emploi, qui va y avoir beaucoup d'agilité nécessaire dans l'organisation des banques et aussi dans la formation des salariés, qui est déjà d'ailleurs un point fort du secteur, mais qui va encore falloir renforcer pour faire évoluer les salariés dont les métiers vont effectivement changer de conseiller de base, je dirais, vers des métiers plus spécialisés ou des métiers effectivement de conformité. On en a parlé tout à l'heure, de plus en plus d'obligations réglementaires qui pèsent sur nous et qu'il faut respecter.
Alors c'est au Kenya que l'opérateur téléphonique Safaricom a lancé, on remonte un peu dans l'histoire, le premier service de paiement mobile. On parle souvent de mobile banking. À l'origine, ce service devait permettre aux détenteurs de téléphones portables de Safaricom d'envoyer de l'argent à leur famille aux quatre coins du Kenya. Ce service baptisé M-Pesa compte aujourd'hui 19 millions d'utilisateurs au Kenya. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laure Broulard à Nairobi.
Il est 18h dans un supermarché du centre de Nairobi. Caroline, la trentaine, passe à la caisse.
Je viens d'acheter un bidon d'eau via M-Pesa. C'est très pratique. Et puis je n'ai pas à me déplacer avec de l'argent liquide, donc c'est plus sûr. Les commerçants ont leur propre identifiant en Safaricom, donc il suffit de rentrer ce numéro dans l'interface M-Pesa, puis le montant, et puis votre code secret. Et le tour est joué.
Derrière la caisse, Gita, la femme du propriétaire, fait les comptes. Elle explique à quel point M-Pesa lui facilite la vie.
Je règle mon médecin avec M-Pesa, mes employés. Vous pouvez transférer directement de l'argent de votre compte en banque sur M-Pesa, donc je l'utilise tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas de raison d'utiliser une carte de crédit ou du liquide, car M-Pesa fonctionne parfaitement.
Comme Gita, 70% des adultes kényans utilisent M-Pesa lors de millions de transactions chaque jour. Actuellement, Safaricom contribue au PIB du pays à hauteur de 6,5% et l'entreprise fait aussi valoir son apport social. Selon une étude du Massachusetts Institute for Technology, 2% des Kenyans sont sortis de la pauvreté grâce au microcrédit proposé par Safaricom. C'est le cas de Hudson, il dirige un atelier de menuiserie. Il utilise M-Shwari, qui lui permet d'emprunter et d'épargner sur son téléphone portable.
J'utilise M-Shwari pour acheter ma matière première. Puis une fois que j'ai vendu les produits et fait des bénéfices, je rembourse mon prêt. Je fais ça chaque mois. Je n'aurais pas pu développer mon entreprise sans M-Shwari. Parce qu'avec les institutions de microfinance, il faut fournir des garanties, pareil pour les banques. Alors qu'M-Shwari ne requiert aucune garantie.
Hudson a commencé avec des prêts de 25 euros. Aujourd'hui, il emprunte plus de 300 euros par mois qui lui permettent de payer ses 16 employés. Et la révolution opérée par M-Pesa ne s'arrête pas là, selon Kenneth Okwero, directeur de la stratégie chez Safaricom.
M-Pesa has changed the way Kenyans see money.
M-Pesa a changé la manière dont les Kenyans perçoivent l'argent et cela les a rendus très réceptifs à d'autres types de transactions informatiques. Vous voyez que maintenant, le paiement de factures d'eau et d'électricité se fait en ligne et de manière instantanée. Donc nous nous dirigeons réellement vers une économie numérique.
really going into a digital economy.
Désormais, Safaricom se diversifie en s'ouvrant aux start-up. L'opérateur a créé un fonds de capital risque pour soutenir les projets innovants dans le secteur de la technologie mobile.
Un reportage signé Laure Broulard à Nairobi. Marc Renard, le Kenya, c'est pas votre terrain, mais le reste de l'Afrique, ça l'est.
Tout à fait. Donc le succès d'M-Pesa qui a été un précurseur au Kenya, bien écoutez, nous l'avons de la même façon avec Orange Monnaie dans 17 pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un immense succès, croissance à deux chiffres depuis 6 ou 7 ans.
Laure Broulard cite un chiffre, 6,5% du PIB kenyan réalisé via Safaricom et M-Pesa sont des scores que vous atteignez
Oui, c'est des choses qu'on voit dans certains pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali. J'ai d'autres chiffres impressionnants qui n'ont pas forcément une grande signification économique, mais qui sont très impressifs. Au Mali, l'équivalent de 25% du PIB est transféré par Orange Monnaie à coût de quelques euros ou de quelques francs, dizaines de francs ou milliers de francs CFA. Donc c'est quelque chose de très important qui favorise l'inclusion financière, qui participe au développement économique des pays. Au Niger ou dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on paye la scolarité avec Orange Monnaie. En Guinée-Conakry, on paye sa vignette automobile également avec du mobile money. Donc c'est très impressionnant. 30 millions de clients, un tiers l'utilisent plus d'une fois par mois. C'est une croissance dont nous sommes très fiers et qui est au service de l'ensemble des populations. Et je voudrais ajouter pour terminer, qui fonctionne à partir de terminaux de téléphones ultra simples, bien sûr les smartphones, mais tout le monde n'a pas un smartphone, donc avec des terminaux, avec ce qu'on appelle des feature phones, avec des terminaux qui coûtent moins de 10 euros, ceux que nous avions en France il y a quelques dizaines d'années.
Marianne Barbalayani, oui. Vous pensez que c'est un plus pour l'activité économique d'un pays, là on parlait des pays africains, mais ça peut être le cas pour la France, l'émergence de nouvelles structures bancaires?
Mais je pense que la bancarisation, c'est évidemment un plus considérable. C'est d'ailleurs des discussions qu'on a souvent avec nos collègues, notamment africains, puisqu'on fait partie d'une association qui s'appelle l'Union bancaire francophone. On a beaucoup travaillé justement avec eux sur ces questions de bancarisation, d'éducation financière. Alors après, bon, ce qui s'est passé en Afrique, mais je suis pas la mieux placée pour l'évoquer. Je pense que c'est Marc Renard qui est le meilleur connaisseur de ce système. C'est que, au fond, il y avait effectivement un gros problème d'accès aux services financiers, que ce soit aux services de base comme les paiements ou les comptes de paiement, et au-delà de ça, des services plus sophistiqués. On a parlé dans le reportage de l'accès au crédit, via le microcrédit, qui est une innovation qui est venue déjà des pays en développement il y a d'assez nombreuses années, qui a été d'ailleurs importée en France par Maria Novak via l'ADI, une association qui s'occupe justement de développer le microcrédit et avec laquelle le secteur bancaire travaille très bien. Donc ces innovations, souvent, elles sont ensuite intégrées dans un secteur bancaire qui se réinvente, je dirais, très régulièrement et qui se réinvente avec l'innovation interne ou avec effectivement l'innovation externe. C'est pour ça que, pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que les banques ont peur, est-ce que le monde de la fintech, c'est au fond, c'est quelque chose qui les terrifié, etc. Je dirais pas du tout. On voit bien d'ailleurs qu'il y a énormément de banques qui travaillent avec les fintechs, qui financent des labs d'innovation, des villages, comme certains les appellent, d'innovation, etc. Et pour certains qui nouent des partenariats avec des fintechs. On a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec le compte Nickel. Il y a de nombreux exemples dans ce sens-là. Donc ça donne ça rénove beaucoup l'écosystème financier français. C'est un des atouts de la place de Paris, d'ailleurs. Aujourd'hui. Donc voilà, il y a effectivement de l'innovation qui se déroule. Alors en Afrique, effectivement, il y avait très peu de bancarisation. Donc ça s'est fait, je dirais, par le téléphone portable qui était peut-être plus facile à développer qu'une infrastructure bancaire qui n'existait pas en réalité. En France, on est dans une situation qui est très différente. Il y a 99% des Français qui ont un compte bancaire. Il y a un droit au compte qui existe d'ailleurs, c'est-à-dire que toute personne peut accéder à un compte bancaire, ça fait partie de la législation chez nous. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Maintenant, les innovations peuvent être importées dans des formes un peu différentes.
C'était Codici Eco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des nouvelles formes de bancarisation avec trois invités. Marc Renard, directeur général adjoint d'Orange, Marianne Barba-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, et Murtaza Assad-Sied, directeur général de Yomoni. Beaucoup de directeurs généraux à ce micro. Alors, on parlait à l'instant de l'inspirateur kényan Safaricom. Le mobile banking joue un rôle important, Marc Renard, vous le disiez, en Afrique de l'Ouest, et il inquiète aussi parfois les banquiers locaux. Écoutez ce que m'en a dit Chekna Bounadjim Sissé, un banquier malien qui était récemment de passage à Paris et que j'ai rencontré à cette occasion.
Aujourd'hui, le mobile banking est pratiquement un concurrent du système bancaire classique, parce que il présente un certain nombre d'avantages, notamment en termes de proximité, notamment en termes de souplesse, en termes d'agilité, que n'offre pas le système bancaire classique. Ceci étant, vous avez dû récemment constater que la Banque centrale a dû restreindre les activités. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a dû restreindre les activités de ces opérateurs-là pour pouvoir effectivement ne pas violer la loi, parce que, par exemple, les transferts en dehors de la zone franc, normalement, sont exclusivement du domaine du système bancaire classique. Donc aujourd'hui, il y a un flou juridique. Donc la Banque centrale essaye de pouvoir réguler un peu, mais il faut dire que aujourd'hui il y a beaucoup plus de comptes que créent les opérateurs de téléphonie mobile qui commercialisent ces produits-là que le système bancaire classique.
Mais quelles sont les limites de ce système de mobile banking, de téléphonie bancaire? Est-ce qu'il y a des limites sur les sommes, sur les possibilités? C'est pas quelque chose qui permet d'investir, c'est juste pour le commerce au quotidien.
Il faut faire très attention à ces nouvelles technologies. Si on ne les maîtrise pas, ça risque de créer une usine à gaz. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, parce que vous imaginez, par exemple, dans le cas de la fuite des capitaux, ce sont des instruments qui sont hors de contrôle du régulateur, du régime de change aussi au niveau local, et donc, du coup, ça peut développer la fuite des capitaux chez les particuliers.
La fraude.
La fraude.
La corruption.
La corruption. Et toutes sortes d'activités illicites. Parce que je vous rappelle que le continent africain, c'est 50 milliards de transferts illicites chaque année.
Marc Renard, ce à quoi faisait allusion Cheikh Nabounadjim Sissé à l'instant, c'est une décision de la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui a mis un coup d'arrêt au transfert de fonds qui pouvait être effectué via Orange Money vers la France. Et la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, a pris à peu près la même décision, donc elle vous a bloqué. Est-ce que vous étiez dans l'illégalité? Est-ce que la banque mobile ne marque pas là sa limite?
Pas du tout. D'abord, moi, je me réjouis qu'un banquier, entre guillemets, traditionnel, se félicite de la pertinence, du bon fonctionnement et de la profondeur d'Orange Money, puisque c'est de ça dont il s'agit ici en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il dit lui-même que l'usage au service des populations est extrêmement large, est extrêmement bénéfique, et c'est effectivement ce qu'on constate. Alors, s'agissant d'Orange Money, nous avons trois activités. Une activité principale qui est à l'intérieur des pays, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Il y a une deuxième activité qui sont les transferts d'argent entre ces pays de la zone franc, les deux zones économiques, le MOA et la zone CEMAC. Et ces deux activités représentent 99,9% de notre activité. Puis il y a une troisième activité qui est le transfert de France vers trois pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et réciproquement.
Et bizarre,
c'est
ça, ouais.
cette troisième activité qui représente moins d'un pour mille de notre activité. Donc pour nous, économiquement, c'est dérisoire. Par contre, c'est très important pour les populations et nous y sommes très attachés. C'est-à-dire qu'un chauffeur de taxi africain vivant à Paris puisse envoyer quelques dizaines d'euros à sa maman qui vit au village. Ça, c'est important pour nous. Économiquement, ça ne pèse rien pour nous. Par contre, c'est très important. Donc ce troisième volet, qui encore une fois pèse moins de 1 pour 1000 de notre activité, fait l'objet d'une discussion sur le niveau d'autorisation administrative qu'il faut pour l'opérer. Donc nous opérions depuis 2 ans, au vu d'autorisation qui nous avait été donnée, la Banque centrale a une autre lecture, nous avons un dialogue extrêmement constructif, et nous avons préféré, de notre propre initiative, suspendre temporairement ce transfert. Nous avons un dialogue en ce moment, et je suis absolument certain qu'on va trouver les voies et moyens de le rétablir au service des populations. Ce n'est pas du tout un enjeu économique pour Orange, mais c'est important pour les populations africaines et nous le ferons dans la légalité, dans le strict respect des prérogatives de la Banque centrale.
Marianne Barbalayani, vous comprenez la préoccupation du régulateur ouest-africain en l'occurrence ?
Je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que les réglementations qui s'appliquent au secteur bancaire, elles ont une justification. En général, c'est la protection du client. Si on exige des banques qu'elles aient beaucoup de capital, qu'elles aient beaucoup de liquidités pour faire face à leurs obligations, ou bien qu'elles vérifient effectivement l'identité du client, c'est pour protéger le client, ou bien c'est pour des mesures d'ordre public qui sont d'éviter effectivement que le secteur financier soit utilisé à des fins de criminels ou de blanchiment ou de violation des embargos, des sanctions, etc. Nous avons dans le secteur bancaire effectivement des obligations très lourdes dans l'ensemble de ces domaines et évidemment il est important que lorsqu'il y a de nouveaux acteurs qui font le même type d'activité que les banques, qu'ils aient le statut de banque ou qu'ils ne l'aient pas, après c'est plus un raisonnement par activité, ils ne créent pas des trous dans cette réglementation, d'abord pour des questions d'égalité de concurrence, mais surtout parce que cette réglementation, elle est totalement essentielle pour maintenir la confiance des clients dans le secteur financier au sens large. Et donc, il faut absolument que tout le monde soit sécurisé, en fait.
Murtaza Azad Ziad, deux mots sur cette polémique, ce débat.
Moi, je voudrais juste un petit peu rajouter peut-être une idée. C'est en particulier pour, on va dire, les Français expatriés en Afrique. C'est vrai qu'ils sont confrontés probablement aussi à une fragilité du secteur financier. Qu'ils sachent que nous, notre service leur est disponible.
C'est de l'autopromotion.
Exactement. C'est un vrai souci pour les gens dans des pays dont les secteurs financiers sont justement à risque. Donc là, c'est une sollicitation plutôt client et non pas régulateur.
Alors on va s'éloigner un peu de l'Afrique, on part en Inde où l'économie fonctionne beaucoup via des liquidités en espèces. Jusqu'à une date récente, la plupart des Indiens n'avaient jamais eu affaire à une banque. Et pour y remédier, le gouvernement a lancé il y a 3 ans une campagne de bancarisation qui a permis l'ouverture de plus de 213 millions de comptes en banque. Ça doit vous faire rêver, Marianne Barbalayani. Parallèlement, New Delhi a déployé un nouveau système, l'identification des clients grâce à leurs empreintes digitales, une méthode révolutionnaire mais apparemment dangereuse selon les experts en cybersécurité. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Sébastien Farcia, New Delhi.
Vivek Kumar, le front marqué d'un signe religieux hindou, se tient droit derrière le comptoir de son magasin photocopie et papeterie situé dans un quartier populaire du sud-est de New Delhi. Un client régulier vient faire un achat et au moment de payer, pas besoin de liquide ou de carte bancaire, il pose simplement son doigt sur un lecteur d'empreintes. 2 secondes après, un son confirme la transaction. Vivek se dit satisfait.
J'ai entre 50 et 60 clients par jour qui utilisent ce système. Je ne paye pas de charges supplémentaires et cela réduit le liquide. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème.
La banque IDFC fournit depuis un mois ce lecteur construit par l'entreprise française Safran. Il permet de réaliser des paiements en lien avec environ 70 différentes banques, encore une minorité du réseau indien. Avant cela, les clients doivent avoir fourni à leur banquier le numéro de leur carte d'identité biométrique Aadhaar. Gaurav, le client, semble convaincu.
On est toujours un peu réticent à donner son empreinte. On ne sait pas comment ce système fonctionne et si on va nous retirer plus d'argent que prévu. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on reçoit un message sur son portable qui nous confirme la somme. C'est satisfaisant.
IDFC a également fourni au commerçant une tablette qui lui servira dans quelques semaines à ouvrir des comptes, recevoir des dépôts ou autoriser de petits retraits au nom de la banque en échange d'une commission, le tout grâce à ce lecteur biométrique. L'adoption rapide de cette technologie alarme toutefois beaucoup d'experts en cybersécurité, comme Sunil Abraham, directeur du Centre pour l'Internet et la Société, basé à Bangalore.
La biométrie réduit fortement le niveau de sécurité, car c'est facile de voler ces données et de les utiliser sans votre accord. Je peux utiliser une caméra de haute résolution pour capturer et répliquer vos empreintes ou votre iris. Et ces données sont irrévocables. Le compte en banque de ma femme a par exemple été vidé. Nous avons immédiatement désactivé sa carte bancaire et elle ne peut plus être utilisée. Avec le système Aadhaar, on peut suspendre l'utilisation des données biométriques, mais il est impossible de les révoquer.
Le gouvernement nie l'importance de ces risques et a décidé de rendre l'utilisation de la carte biométrique obligatoire pour ouvrir de nouveaux comptes en banque.
Un reportage signé Sébastien Farcy à New Delhi. Marc Renard, ça vous inspire pour votre Banque Orange, cette signature digitale?
On est dans des systèmes totalement différents. Là, on parle de ce qui se passe dans des pays en voie de développement, donc il y a plus à voir avec Orange Money qu'avec Orange Bank. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a notre priorité absolue, qui est de générer de la confiance, est basée sur la sécurité, sur la lutte antifraude. Et nous allons... partout où nous opérons, comme nous le faisons en Afrique, comme nous le ferons en France, comme nous le faisons en Europe, ajouter la sécurité de la SIM à la sécurité traditionnelle de la carte SIM, à la sécurité des systèmes bancaires. Donc Orange, avec Orange Money et avec Orange Bank, c'est plus de sécurité et plus de transparence.
Marianne Barbalayani, pour le mot de la fin de cette émission.
Mais oui, la sécurité, c'est évidemment un enjeu absolument colossal. Il faudrait des heures et des heures pour en parler. On a trois secondes. Donc évidemment, c'est le seul domaine dans lequel vous verrez les banques extraordinairement intransigeantes vis-à-vis de tous les nouveaux entrants. Il est absolument inacceptable du point de vue du secteur bancaire que la sécurité globale du système, qui a mobilisé des milliards et des milliards d'investissements au travers du temps et qui est la clé de la confiance des clients, ça a été dit d'ailleurs, la confiance des clients... qui est pour nous essentiel, il serait absolument inadmissible que l'on abaisse le niveau de sécurité, surtout qu'effectivement on est dans un monde où les enjeux de cybersécurité, je ne vous apprends rien, sont évidemment colossaux.
Merci Marianne Barbalayani, merci Murtaza Assadsian, merci Marc Renard d'avoir participé à cette émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, j'en oublie le titre de cette émission qui est maintenant terminée. Ludivine Amado a réalisé et mis en onde ce programme et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.